Chapitre 2. Borne, Saint-Pierre, le Muséum, Drouet, Raphaël, le Vatican, le Colisée, Angelica Kaufmann, le cardinal de Bernis, usage romain, mes déménagements. Peu de jours après mon arrivée à Rome, j'écrivais à Robert le paysagiste la lettre suivante. Rome, 1er décembre 1789. J'ai quitté avec peine, mon ami, cette belle ville de Florence où j'ai vu très rapidement des chefs-d'œuvre si remarquables et que je me promets bien de revoir avec plus de soin à mon retour de Rome. Vous avez été témoin des gros soupirs que me faisaient pousser les récits de tous ceux qui avaient eu le bonheur de séjourner ici. Vous savez combien je désirais visiter à mon tour cette belle patrie des arts. Je puis dire que j'avais pour Rome la maladie du pays. Mais tant de portraits que je me trouvais engagé à faire ne m'auraient pas permis de réaliser mon désir si, pour notre malheur à tous, la Révolution n'était pas venue me déterminer à quitter Paris, dont le charme était détruit pour moi. Vous savez, mon cher ami, qu'à quelque distance de Rome, on découvre déjà le dôme de Saint-Pierre. Il m'est impossible de vous dire la joie que j'éprouvais lorsque je l'aperçus. Je croyais rêver ce que j'avais souhaité si longtemps en vain. Enfin, je me trouvais sur le Ponte Mole. Je vous avouerai même tout bas qu'il m'a paru bien petit et le Tibre si chanté, bien sale. J'arrive à la porte del Popolo. Je traverse la rue du Cours, puis je m'arrête à l'Académie de France. Notre directeur, M. Ménageau, vient à ma voiture. Je lui demande l'hospitalité jusqu'à ce que j'aie trouvé un logement. Et voilà qu'il me donne aussitôt un petit appartement où ma fille et sa gouvernante sont logées près de moi. De plus, il me prête 10 louis pour que je puisse achever de payer mon voiturin. Car il faut dire que je n'ai emporté avec moi que 80 louis, mon cher mari gardant tout pour lui, comme vous savez qu'il avait coutume de faire. Le jour même de mon arrivée, M. Ménageau m'a mené avant tout à Saint-Pierre, dont l'immensité, d'après l'idée que l'on m'en avait donnée, ne m'a point frappé d'abord. J'attribue cet effet à la grandeur si bien calculée de tous les détails. Par exemple, à l'aspect de ces deux bénitiers de jaune antique, en forme de coquille, que l'on voit en entrant, les enfants de 4 ou 5 ans qui les entourent ont 6 pieds de hauteur, et cette parfaite proportion diminue au premier coup d'œil la grandeur de l'église. Quoi qu'il en soit, je n'ai su qu'en la parcourant à quel point elle était vaste. Ayant dit à M. Ménageau que j'aurais préféré l'avoir soutenue par des colonnes au lieu de ces énormes pilastres, il me répondit qu'on l'avait bâtie d'abord comme je le désirais, mais que, les colonnes ne paraissant pas assez solides, on les avait entourées ainsi. Il m'a fait voir en effet depuis un tableau où Saint-Pierre est représenté comme je voudrais qu'elle fût. J'ai monté aussi l'escalier qui conduit à la chapelle Sixtine pour admirer la voûte peinte à fresque par Michel-Ange et le tableau représentant le jugement dernier. Malgré toutes les critiques qu'on a faites de celui-ci, il m'a semblé un chef-d'œuvre du premier ordre pour l'expression et la hardiesse des raccourcis. Il y a vraiment du sublime dans la composition, dans l'exécution. Quant au désordre qui y règne, il est, selon moi, complètement justifié par le sujet. Le lendemain, je suis allé voir le muséum. Il est bien vrai qu'on ne peut rien comparer sous le rapport des formes, du style et de l'exécution à tant de chefs-d'œuvre antiques. C'est aux Grecs surtout qu'il appartenait de réunir, dans une aussi haute perfection, l'élégance des formes à la vérité. En voyant leurs ouvrages, on ne peut douter qu'ils n'aient eu de bien admirables modèles et que les hommes et les femmes de la Grèce n'aient réalisé jadis ce que nous appelons le beau idéal. Je n'ai fait encore que parcourir le muséum, mais l'Apollon, le gladiateur mourant, le groupe du Laocoon, ses beaux autels, ses magnifiques candélabres, toutes ces beautés enfin qui me sont apparues, m'ont déjà laissé des souvenirs ineffaçables. Au moment où j'allais partir pour cette course au muséum, j'ai reçu la visite des pensionnaires de l'Académie de peinture, au nombre desquels était Giraudet. Ils m'ont apporté la palette du jeune Drouet et m'ont demandé en échange quelques brosses dont je me sois servi pour peindre. Je ne puis vous cacher, mon ami, à quel point j'ai été sensible à cet hommage si distingué, à cette demande si flatteuse. J'en garderai toujours une douce et reconnaissante pensée. Combien je regrette de ne pas retrouver ici ce jeune droué que la mort vient de nous enlever cruellement. Je l'avais connu à Paris, il avait même dîné chez moi avec ses camarades, la veille du jour où tous sont partis pour Rome. Vous n'avez pas oublié sans doute son beau Marius ? Pour moi, je le vois encore. » La foule se portait chez la mère du pauvre Drouet pour voir ce tableau qui était exposé chez elle. Hélas, la mort ne respecte rien. N'a-t-elle pas frappé Raphaël avant qu'il eût 38 ans? N'a-t-elle pas enlevé ce génie au monde quand il était dans toute sa force, dans toute son énergie? Car je vous avoue que j'entre en fureur lorsque je songe qu'on a osé dire, qu'on a osé écrire que Raphaël était mort par suite d'excès, en un mot, de libertinage. Quoi, ce talent si pur, si suave, aurait été chercher ses inspirations dans les mauvais lieux? De bonne foi, cela peut-il se croire? Mais la preuve que rien n'est plus faux, c'est que nous savons tous que Raphaël était amoureux, éperdument amoureux de cette belle boulangère, sans laquelle il ne pouvait vivre, à qui il restait fidèle au point de refuser pour elle les honneurs, les richesses et la main de la nièce du cardinal Bibienne. Tellement que, lorsqu'enfin le pape se laissa fléchir et permit que la fornarine rentrât dans Rome, l'émotion de joie qu'il éprouva, le bonheur de revoir cette femme adorée, contribuèrent beaucoup à terminer ses jours. Un homme aussi passionné, aussi constant, pouvait-il rechercher les voluptés grossières, se rouler dans la fange? Non, ces choses ne sont pas compatibles. Non, Raphaël n'était pas un libertin. Il ne faut que regarder ses têtes de vierge pour être sûr du contraire. Pardonnez-moi cette diatribe, mon ami, je sors du Vatican. C'est là surtout que le divin maître a démontré toute la subtilité de son art. Les copies que l'on a faites des chefs-d'œuvre de Raphaël sont loin d'en donner une juste idée. Il faut les voir face à face pour admirer le dessin, l'expression, la composition de chaque sujet. Jusqu'aux draperies, tout y est parfait. J'ai même remarqué que, dans la plus grande partie de ces belles pages, la couleur avait la vérité du Titien. La galerie, les salles et même ce corridor du Vatican où j'ai vu dans le fond la belle Cléopâtre mourante, tout cela est unique dans le monde. Combien ne s'étonne-t-on pas de la variété des compositions de Raphaël en voyant cette école d'Athènes ordonnée avec tant de sagesse, puis l'incendie de Borgo, composé dans un genre si différent? Mais ce qui surprend le plus, c'est que celui qui est mort si jeune ait laissé tant de chefs-d'œuvre. Cela prouve avec évidence que la fécondité est un attribut inhérent au génie. Il est bien malheureux de voir que tant de belles productions soient altérées non seulement par le temps, mais aussi parce qu'on permet que de jeunes artistes aillent prendre le trait au calque. Je me rappelle à ce sujet qu'un ancien directeur de l'Académie disait à ses élèves « Qu'avez-vous besoin de prendre le trait des figures de Raphaël? Prenez la nature, morbleu, ce sera la même chose. » « Allez sur la place del Popolo !» Je me suis rendu au Colisée en mémoire de vous. Le côté d'où l'on peut le croire entier suffit pour faire estimer parfaitement sa grandeur, et cette ruine est encore une des plus belles choses qu'on puisse voir. Le ton de ces pierres, les effets que la végétation y a semés partout, en font un monument admirable pour la peinture. Je ne puis concevoir comment il a pu vous venir l'idée si hasardeuse de grimper jusqu'au faîte pour l'unique plaisir d'y planter une croix. La raison se refuse à le croire. Je dois vous dire au reste que cette croix est restée et que votre adresse et votre courage sont devenus historiques car on en parle encore à Rome. J'ai été voir Angelica Kaufmann, que j'avais un extrême désir de connaître. Je l'ai trouvée bien intéressante à part son talent, par son esprit et ses connaissances. C'est une femme qui peut avoir 50 ans, très délicate, sa santé s'étant altérée par suite du malheur qu'elle avait eu d'épouser d'abord un aventurier qui l'avait ruinée. Elle s'est remariée depuis à un architecte qui est pour elle un homme d'affaires. Elle a causé avec moi beaucoup et très bien pendant les 2 soirées que j'ai passées chez elle. Sa conversation est douce. Elle a prodigieusement d'instructions, mais aucun enthousiasme, ce qui, vu mon peu de savoir, ne m'électrisait pas. Angelica possède quelques tableaux des plus grands maîtres, et j'ai vu chez elle plusieurs de ses ouvrages. Ces esquisses m'ont fait plus de plaisir que ces tableaux parce qu'elles sont d'une couleur titianesque. J'ai été dîner hier avec elle chez notre ambassadeur, le cardinal de Bernis, à qui j'avais fait une visite 3 jours après mon arrivée. Il nous a placés toutes deux à table à côté de lui. Il avait invité plusieurs étrangers et une partie du corps diplomatique, en sorte que nous étions une trentaine à cette table dont le cardinal a fait les honneurs parfaitement, tout en ne mangeant lui-même que 2 petits plats de légumes. Mais voilà le plaisant. Ce matin, on me réveille à 7 heures en m'annonçant la famille du cardinal de Bernis. Je suis bien saisie, comme vous imaginez. Je me lève, tout essoufflé, et je fais entrer. Cette famille était 5 grands laquais en livrée qui venaient me demander la buona mano. On m'expliqua que c'était pour boire. Je les congédiai en leur donnant 2 écus romains. Vous concevez toutefois mon étonnement, n'étant pas instruite de cet usage. Voilà, mon ami, une énorme lettre, mais j'avais besoin de causer avec vous. Rappelez-moi à ce qui reste à Paris de mes amis et de mes connaissances. Comment va notre cher abbé de Lille? Parlez-lui de moi, ainsi qu'à la marquise de Grolier, à Brongniart, à ma bonne amie madame de Verdun. Hélas, quand vous reverrai-je tous? Adieu. Comme je ne pouvais rester dans le très petit appartement que j'occupais à l'Académie de France, il me fallut chercher un logement. Je regrettais fort peu celui que je quittais, attendu qu'il donnait sur une petite rue dans laquelle les voitures des étrangers remisaient à toute heure de nuit. Les chevaux, les cochers, faisaient un train infernal. En outre, il se trouvait une madone au coin de cette rue, et les calabrois, dont sans doute elle était la sainte, venaient chanter et jouer de la musette devant sa niche jusqu'au jour. À vrai dire, il m'était assez difficile de trouver à me loger, attendu l'extrême besoin que j'ai de sommeil et le calme environnant qui m'est absolument nécessaire pour dormir. J'allais d'abord occuper un logement sur la place d'Espagne, chez Denis, le peintre de paysages. Mais toutes les nuits, les voitures ne cessaient point d'aller et de venir sur cette place où logeait l'ambassadeur d'Espagne. De plus, une foule de gens de diverses classes du peuple s'y réunissaient quand j'étais au lit, pour chanter en chœur des morceaux que les jeunes filles et les jeunes garçons improvisaient d'une manière charmante, il est vrai, car la nation italienne semble avoir été créée pour faire de bonne musique. Mais ce concert habituel, qui m'aurait enchanté le jour, me désolait la nuit. Il m'était impossible de reposer avant 5 heures du matin. Je quittai donc la place d'Espagne. J'allai louer près de là, dans une rue fort tranquille, une petite maison qui me convenait parfaitement, où j'avais une charmante chambre à coucher, toute tendue en verre, avantage dont je me félicitais beaucoup. J'avais visité toute la maison depuis le haut jusqu'en bas. J'avais même examiné les cours des maisons voisines, sans rien apercevoir qui pût m'inquiéter. Je pensais donc ne pouvoir entendre d'autre bruit que le bruit bien léger d'une petite fontaine placée dans la cour, et dans mon enchantement, je m'empresse de payer le premier mois d'avance, 10 ou 12 louis, je crois. Bien joyeuse, je me couche dans une quiétude parfaite. À 2 heures du matin, voilà que j'entends un bruit infernal, précisément derrière ma tête. Ce bruit était si violent que la gouvernante de ma fille, qui couchait 2 chambres plus loin que la mienne, en avait été réveillée. Dès que je suis levée, je fais venir mon hôtesse pour lui demander la cause de cet horrible vacarme, et j'apprends que c'est le bruit d'une pompe attachée à la muraille près de mon lit. Les blanchisseuses, ne pouvant blanchir le linge pendant le jour, attendu l'extrême chaleur, ne venaient à cette pompe que la nuit. On imagine si je m'empressais de quitter cette charmante petite maison. Après avoir beaucoup cherché inutilement pour m'établir à ma fantaisie, on m'indiqua un petit palais dans lequel je pouvais louer un appartement. N'ayant encore rien trouvé qui pût me convenir, je pris le parti de m'y installer. J'avais là bien plus d'espace qu'il n'en fallait pour me loger commodément. Mais toutes ces pièces étaient d'une saleté dégoûtante. Enfin, après en avoir fait nettoyer quelques-unes, je vais m'y établir. Dès la première nuit, je pus juger des agréments de cette habitation. Un froid, une humidité effroyable m'auraient permis de dormir, qu'une troupe de rats énormes qui couraient dans ma chambre, qui rongeaient les boiseries et mes couleurs, m'en auraient empêché. Quand je demandai le lendemain au gardien comment il se faisait que ce petit palais fût si froid et que les rats y eussent établi leur domicile, il me répondit que depuis 9 ans, on n'avait pu trouver à le louer. Ce que je n'eus point de peine à croire. Malgré tous ces inconvénients, cependant, je me vis forcé d'y rester 6 semaines. Enfin, je trouvai une maison qui paraissait être entièrement à ma convenance. Je ne la louai néanmoins que sous la condition de l'essayer pendant une nuit, et à peine m'étais-je mis au lit que j'entendis sur ma tête un bruit tout à fait insurmontable. C'était une quantité innombrable de vers qui grugeaient les solives. Dès que j'eus fait ouvrir les volets, le bruit cessa. Mais il n'en fallut pas moins abandonner cette maison à mon grand regret, car je ne crois pas qu'il soit possible de déménager plus souvent que je ne l'ai fait pendant mes différents séjours dans la ville du Capitole. Aussi suis-je resté convaincu que la chose la plus difficile à faire dans Rome, c'est de s'y loger.